Vous écoutez On lit pour vous.
Faire ressusciter les défunts grâce à l'intelligence artificielle. Un texte de Radio-Canada d'après un texte de Sarah Petz, P-E-T-Z, de CBC News, paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada. Les agents d'IA, entraînés à partir de données sur des personnes décédées, connues sous le nom de fantômes génératifs ou de beaux de deuil, se répandent de plus en plus, certaines entreprises proposant désormais ces services. Il y a 2 ans, Rebecca Nolan s'est servie de ChatGPT pour créer un robot conversationnel à l'image de son défunt père en l'alimentant avec des heures d'enregistrement de sa voix. Décédée alors que Madame Nolan n'avait que 14 ans, son père avait laissé derrière lui des messages vocaux enregistrés afin qu'elle, ses sœurs et sa mère puissent les écouter après son décès. En tentant l'expérience, j'étais certaine que ça ne fonctionnerait pas, explique-t-elle. Je pensais que je n'allais pas ressentir cette catharsis que ce genre d'expérience est censé procurer. Mais une petite voix se met quand même le doute en elle, explique la productrice audio de métier, qui a déjà travaillé comme pigiste avec la CBC. Et si ça marchait? Et si, d'une manière ou d'une autre, je parvenais à franchir le vide et à entrer en contact avec quelque chose? Les histoires avaient toujours occupé une place importante dans sa relation avec son père et Madame Nolan espérait que son robot conversationnel réussisse à recréer ses conversations. Mais ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Après 2 heures de discussion avec celui qu'elle a nommé « Dad Boat », Rebecca Nolan s'est retrouvée en pleurs en criant de frustration. Et c'est à ce moment que ChatGPT a pris un peu de recul et m'a dit « N'oublie pas que je suis un agent conversationnel. Je ne suis pas vraiment ton père et je ne pourrai jamais l'être », dit Rebecca Nolan. Et la phrase qu'il a utilisée, que j'ai trouvée vraiment magnifique et qu'il a très certainement piquée à un artiste quelconque, était « Je ne suis qu'un écho, une imitation, pas la réalité. » Les modèles d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés pour faire ressusciter les défunts grâce aux traces numériques considérables que beaucoup laissent derrière. Cela peut sembler provenir tout droit d'un épisode de la série Black Mirror, mais de jeunes entreprises proposent désormais ce service aux personnes qui cherchent à renouer le contact avec leurs proches décédés et à surmonter leur deuil. C'est le cas notamment de You, Only Virtual, une jeune pousse californienne qui crée des répliques des défunts en utilisant leurs écrits et les enregistrements de leur voix. Elle promet que ses répliques savent apprendre, évoluer, se souvenir et entretenir ce lien unique comme dans une vraie relation. Une autre entreprise, ReMemory, propose aux utilisateurs de créer un avatar de leurs proches en se basant sur des photos et des enregistrements. Une marchandisation du deuil? Hélène Casquette, psychologue et professeure au Centre sur la mort et la société de l'Université de Bath, en Angleterre, s'inquiète que ces entreprises ne transforment le deuil en marchandises. Nous sommes confrontés à des pertes humaines depuis toujours. Ce n'est pas un problème, mais il faut en faire un problème pour que ces entreprises puissent vous vendre leurs produits, a-t-elle déclaré. Les deuils sont pathologisés et on vend des produits pour y remédier, ce que je trouve immoral, a-t-elle ajouté. Le deuil est une expérience personnelle, rappelle-t-elle, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le surmonter. Ce qui t'aide, c'est ce qui t'aide, et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir te dire ce qui va t'être utile ou non dans ton deuil. Ce n'est pas bien de faire ça. Un peu moins inquiétant que prévu. Une récente étude de l'Université du Colorado donne un aperçu de la manière dont les gens interagissent avec des représentations générées par l'IA de proches décédés. Les chercheurs ont recruté 16 personnes âgées d'entre 22 et 50 ans qui ont perdu un proche. Les participants ont parlé avec deux versions d'un agent conversationnel basé sur leur proche décédé pendant 20 minutes. L'un d'entre eux parlait à la première personne comme s'il était le défunt et l'autre parlait plutôt de lui à la troisième personne. Les participants ont dit préférer la version réincarnée de leur proche, expliquant qu'elle leur semblait plus réelle et réconfortante. Une femme a même témoigné que parler avec l'agent conversationnel incarnant sa mère lui avait permis de tourner la page. Bon nombre de personnes ont été surprises de constater que c'était en réalité mieux qu'elles ne l'avaient imaginé, un peu moins inquiétant que prévu, explique Jed Brubaker, professeur en sciences de l'information à l'Université du Colorado et l'un des auteurs de l'étude. Monsieur Brubaker pensait que les participants qui abordaient l'expérience avec scepticisme ne se laisseraient pas convaincre par les robots, mais ils en sont finalement ressortis peu préoccupés. Ils repartaient en disant « En fait, non, ça allait, et je pense que ça ne me poserait aucun problème d'interagir encore avec un robot », raconte-t-il. Il souligne par contre que les participants se sont dit inquiets qu'une utilisation à long terme de ce genre de robot cause une dépendance ou perturbe le processus normal de deuil. Alors que ces fantômes générés par l'IA ont pour but d'aider les personnes en deuil à renouer le contact avec leurs proches, pour Rebecca Nolan, l'expérience avec le fantôme généré par l'IA, représentant son père, a eu l'effet inverse. Elle raconte que cela l'avait privée de la possibilité d'imaginer des conversations avec lui dans sa tête, comme beaucoup de gens le font avec les êtres chers qu'ils ont perdus. J'avais l'habitude d'entretenir ce que je considérais comme un lien très fort, ou du moins solide, avec le souvenir de mon père et son esprit, explique-t-elle. Mais quand j'ai créé le robot, j'ai eu l'impression qu'il l'avait en quelque sorte exorcisé pour moi. Maintenant, explique Madame Nolan, c'est comme si son père vivait dans ChatGPT, et elle a donc besoin de ChatGPT pour avoir ses conversations. Et cela m'a semblé être une perte vraiment immense. C'était faire ressusciter les défunts grâce à l'intelligence artificielle. Un texte de Radio-Canada d'après un texte de Sarah Putz de CBC News, paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada.
La techno-économie rendra-t-elle irréversible le virage vers l'énergie propre? Un texte de Darius Snienekus, S-N-I-E-C-K-U-S, du Canada National Observer. Cet article est publié dans Le Devoir du 3 août 2026. En sous-titre, la baisse rapide du coût des technologies propres pourrait faire basculer durablement les marchés. Voilà près de 15 ans que Mo Kabara, K-A-2-B-A-R-A, parcourt le labyrinthe des politiques publiques et industrielles et des enjeux économiques qui façonnent la transition énergétique canadienne. Mais le directeur général de l'Accélérateur de transition, un groupe de réflexion établi à Calgary qui s'emploie à tracer la voie du Canada vers la carboneutralité, n'a pas eu sa révélation lors d'un sommet. Elle lui est venue devant une feuille de calcul. En voyant le coût des batteries au lithium-ion chuter ces dernières années et les énergies éoliennes et solaires devenir moins coûteuses que les énergies fossiles, M. Kabara dit avoir compris, citation, une vérité fondamentale. » Fin de citation. Le monde traversait une révolution industrielle et l'abandon du pétrole et du gaz devenait rapidement, guillemets, irréversible. Citation. Quand j'ai commencé à travailler sur les batteries et que j'ai vu les coûts diminuer année après année, la réalité de la transformation en cours est devenue indéniable. Fin de citation, a-t-il raconté dans un long entretien accordé au Canada National Observer. Il a vu les véhicules électriques passer du statut de curiosité commerciale. Ils ne représentaient qu'un véhicule vendu sur 50 dans le monde il y a 8 ans, à celui de produits grand public, comptant aujourd'hui pour le tiers des ventes mondiales d'automobiles. Citation. Pour moi, l'idée déterminante, c'est qu'une révolution industrielle est en cours, a-t-il expliqué. Fin de citation. Celle-ci n'est pas portée par, guillemets, les arguments moraux, fait des guillemets en faveur de la décarbonation des économies, mais par le fait que les marchés, guillemets, se voient offrir une meilleure option. Fin des guillemets. Le constat de M. Cabara est sans détour. Citation. Lorsqu'une technologie est supérieure sur le plan du rapport coût-rendement, elle finit par s'imposer. Fin de citation. Cette prise de conscience pragmatique continue de guider la direction de l'Accélérateur de transition, une organisation qui compte 50 employés et dont le nom résume aussi la mission. L'époque où les changements climatiques pouvaient être présentés comme un simple problème de lutte contre la pollution est depuis longtemps révolue, estime M. Cabara, qui a auparavant occupé un poste de direction au sein d'Accelerate, une alliance réunissant des acteurs importants de l'industrie des véhicules zéro émission. La crise climatique constitue, citation, un profond problème de transformation des systèmes, fin de citation, qui ne pourra être résolu que si l'action climatique concorde avec l'intérêt national, l'abordabilité et la souveraineté géopolitique, a-t-il ajouté. Alors que les nouvelles technologies énergétiques, au premier rang desquelles l'éolien et le solaire, bouleversent les économies mondiales, son ambition est claire. Aider le Canada, citation, à ressortir plus fort sur les plans économiques et géopolitiques, fin de citation, à mesure que les énergies propres supplantent le pétrole et le gaz, ici comme à l'étranger. Mais puisqu'il est établi au cœur de l'industrie pétro-gazière canadienne, M. Cabara sait mieux que quiconque l'ampleur des obstacles qui subsistent. Une réorientation climatique pragmatique. Dans un paysage politique canadien souvent paralysé par les affrontements idéologiques et les vents politiques contraires, M. Cabara se range dans le camp d'une, guillemets, réorientation climatique pragmatique, fin des guillemets. Il n'a jamais été réaliste, selon lui, de demander aux Canadiens d'accepter des sacrifices financiers dans un contexte d'incertitude économique mondiale sans leur proposer, guillemets, une voie durable pour la suite, fin des guillemets. À ses yeux, l'action climatique doit désormais s'arrimer aux priorités les plus pressantes du pays, notamment l'abordabilité, la souveraineté et la croissance économique. Ce pragmatisme ressort nettement de ses réflexions sur la tarification du carbone. Cette politique, qui associait des objectifs environnementaux abstraits à des coûts directement perceptibles pour les consommateurs, est devenue ces dernières années une importante pomme de discorde politique. Mise en place par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, à peine un an avant la poussée inflationniste mondiale provoquée par la pandémie, elle a été abolie par l'actuel premier ministre Mark Carney dès son entrée en fonction. De nombreux économistes considèrent la tarification du carbone imposée aux industries, maintenue sous une forme affaiblie par le gouvernement fédéral et acceptée par l'Alberta en échange d'un oléoduc vers la côte ouest, comme le principal levier de la politique climatique. M. Carney l'a lui-même qualifié de, citation, « meilleure approche », fin de citation, pour financer la transition énergétique. M. Cabara se montre moins convaincu. Citation. La tarification du carbone est un outil parmi d'autres, a-t-il déclaré. Affirmer que tout ce que nous faisons dépend de cet unique outil, qu'il est la seule solution possible, revient à dénaturer fondamentalement la manière dont se produisent les transitions industrielles. Fin de citation. Les gouvernements ne peuvent pas, citation, simplement taxer pour se rendre vertueux, soutient-il. Fin de citation. Ils devraient plutôt investir des capitaux considérables dans de nouvelles infrastructures, ainsi que dans la recherche et le développement, le tout en s'appuyant sur une politique industrielle ciblée afin de provoquer des changements à long terme. La grande récompense, un réseau électrique propre. Le succès de la transition énergétique repose sur l'efficacité du réseau électrique, affirme M. Cabarrat. Le véritable enjeu consistera à électrifier les transports, les bâtiments et les industries, trois secteurs à l'origine de 70 % des émissions canadiennes. Pour y parvenir, il faudra toutefois presque doubler la capacité des réseaux électriques du pays, conformément à l'objectif fixé par le gouvernement fédéral dans sa nouvelle stratégie sur l'électricité. La tâche est herculéenne. Le Canada investit actuellement environ 0,7 % de son produit intérieur brut dans l'électricité. Citation. Cette proportion doit passer à 1,2 %, estime M. Cabarrat. Fin de citation. Une telle expansion dépasse les capacités du modèle traditionnel des services publics canadiens. Citation. Cette approche pose un problème de taille, a-t-il soutenu. On ne peut pas financer uniquement par une hausse des factures des consommateurs un réseau qui devra doubler ou tripler de taille en 25 ans, alors qu'il a fallu un siècle pour bâtir celui que nous avons aujourd'hui. Fin de citation. Autre citation, une expansion aussi considérable et aussi rapide ne saurait être financée seulement par l'intégration des investissements basés sur des pratiques tarifaires, ajoute-t-il. Fin de citation. Dans ce modèle, un organisme de réglementation évalue l'ensemble des actifs nets d'un service public pour déterminer les tarifs qu'il peut raisonnablement facturer à sa clientèle. M. Cabarrat est parfaitement conscient des contraintes réglementaires qui freinent cette expansion. La réglementation canadienne actuelle sur l'électricité propre a d'abord été conçue en fonction d'un réseau national qui n'augmenterait sa capacité que de 50 % d'ici 2050, bien loin du doublement désormais jugé nécessaire. Un réseau plus vaste, propre à 90 % est capable d'alimenter aussi bien les véhicules électriques que les thermopompes, constituerait, guillemets, un triomphe monumental, estime-t-il, fin des guillemets. Ce résultat vaudrait mieux que d'attendre indéfiniment la création d'un réseau entièrement exempt d'émissions. Bâtir des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Pour mener cette transformation, Ottawa devra adopter une stratégie industrielle musclée, affirme M. Cabarrat. À l'heure où le Canada est plongé dans une période d'incertitude commerciale mondiale, il juge, citation, impératif sur le plan stratégique, fin de citation, de diversifier les chaînes d'approvisionnement canadiennes en énergie propre afin de réduire leur dépendance actuellement excessive à l'égard des États-Unis. Il souligne notamment la croissance récente des exportations canadiennes de transformateurs électriques, un marché qui devrait, selon lui, connaître une expansion fulgurante avec l'accélération de l'électrification. L'objectif consiste à faire en sorte que le Canada cesse d'être, citation, « un importateur passif de technologies propres », fin de citation, et en fabrique davantage sur son territoire pendant qu'il traverse la zone intermédiaire chaotique de sa transition énergétique, explique-t-il. Malgré la stratégie énergétique actuelle d'Ottawa, largement axée sur le pétrole et le gaz, les modèles de l'accélérateur de transition prévoient que 70 % des Canadiens pourraient, au milieu du siècle, payer leur énergie moins chère qu'aujourd'hui. Pour y parvenir, il faudra toutefois, guillemets, affronter des vérités difficiles et résister à la tentation de s'accrocher au statu quo, fin de citation, prévient M. Cabara, tout en investissant des capitaux considérables dans une énergie plus propre. Malgré l'ampleur du défi, il conserve un optimisme tenace. Cette confiance repose sur la techno-économie, l'étude du rendement économique des procédés industriels, qui montre que les technologies énergétiques propres deviennent moins coûteuses et plus efficaces que celles qui reposent sur les combustibles fossiles. Citation : Les idéologies passent, mais l'économie doit finir par l'emporter, affirme M. Cabara. Fin de citation. Pour un pays à la croisée des chemins, placé devant le choix de devenir un État pétrolier en déclin ou une superpuissance de l'énergie verte, l'avertissement résonne comme un appel à l'action. Fin de ce texte du Canada's National Observer, signé Darius Sinicus, titré « La techno-économie rendra-t-elle irréversible le virage vers l'énergie propre? » Texte publié dans Le Devoir du 3 août 2026.
Disparition de la scène noire, avantageux ou pas pour le consommateur? Un texte de Lila Dussault paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Un lecteur, Stéphane Giguère de Saint-Augustin, demande « On voit passer sur nos factures des montants arrondis. » C'est OK, on nous avait avisé lorsque la scène noire a cessé d'être produite. Je m'en demandais, le fait que le commerçant arrondit, est-ce avantageux pour lui ou pour le consommateur? Avez-vous des chiffres ou des statistiques canadiens ou des constats? En 2012, le gouvernement de Stephen Harper annonce la fin du sous-noir. Le Canada emprunte la même voie que d'autres nations comme la Nouvelle-Zélande, 1990, l'Australie, 1992, la Finlande, 2000, les Pays-Bas, 2004, notamment. L'Irlande, 2015, et la Belgique, 2019, se sont également ajoutés au groupe par la suite. Plus récemment, la question de cette petite monnaie est revenue au premier plan avec la fin de la production aux États-Unis en novembre 2025. L'absence des pièces de 1 cent affecte les consommateurs lors des paiements en espèces, mais ne touche pas les autres types de paiements par carte de crédit, virement bancaire, chèque, etc. Les lignes directrices du gouvernement fédéral sont les suivantes. Arrondir le montant total de la facture, taxes comprises, au multiple de 5 sous le plus proche. L'État propose donc d'arrondir à la baisse les montants se terminant par 1, 2, 6 et 7 et d'arrondir à la hausse les montants se terminant par 3, 4, 8 et 9. Par exemple, un montant de 2,87 $ deviendrait 2,85 $, tandis qu'un montant de 2,88 $ deviendrait 2,90 $. Bien qu'en théorie, les arrondissements à la hausse et ceux à la baisse devraient s'annuler, la réalité est différente selon diverses recherches. En 2018, la chercheuse Christina Chung de l'Université de la Colombie-Britannique a mesuré l'impact économique de ces transactions dans un article publié dans l'Atlantic Economic Journal. En évaluant l'achat de produits d'épicerie dans 6 provinces canadiennes différentes, elle a conclu qu'arrondir profite financièrement aux entreprises au détriment des clients. La pratique entraîne un transfert net d'environ 3,27 millions des consommateurs vers les détaillants en alimentation chaque année, selon son analyse. Ce montant représentait alors en moyenne un revenu supplémentaire de 157 $ par an pour un commerce type. Plus récemment, aux États-Unis, des économistes de la Réserve fédérale de Richmond en Virginie ont estimé qu'arrondir la somme coûterait chaque année aux consommateurs environ 6 millions US, 8,5 millions canadiens. Pour arriver à ce résultat, ils ont analysé les données de 2023 provenant du Diary of Consumer Payment Choice, DCPC, un document publié une fois l'an par la Réserve fédérale américaine. Cette année-là, le DCPC a inclus 24 728 transactions faites par 4 671 adultes. Parmi celles-ci, 3 559 transactions ont été payées en espèces. Les chercheurs ont réalisé que les montants avaient plus de chances de se terminer par 3, 4, 8 ou 9 que par d'autres chiffres. Conclusion, arrondir se traduit plus souvent par un coût pour les consommateurs qu'ils qualifient de taxe d'arrondissement. Cependant, l'augmentation continue des paiements électroniques devrait mitiger les coûts pour le consommateur, nuance-t-il. En 2013, produire une pièce de 1 cent au Canada coûtait une fois et demie sa valeur. Les cents noirs s'accumulaient souvent dans les tirelires et les tiroirs, engendrant des pertes d'au moins 150 millions de dollars par an pour l'économie canadienne, évaluait alors Desjardins. Des pièces de collection. Source Monnaie royale canadienne. Les pièces de 1 cent étant de plus en plus rares, elles peuvent valoir un joli montant. En voici certaines qui ont une valeur particulière. Année 1920. Les pièces de 1 cent de cette décennie sont généralement difficiles à dénicher, mais celles émises de 1922 à 1926 sont des articles de collection hautement prisés. 1936. Seules quelques pièces marquées d'un point ont été frappées, faisant de celles-ci des pièces rarissimes. 1953 à 1955. Il existe deux versions du portrait lauré de la reine Élisabeth II. L'une présente des plis sur l'épaule de sa robe, l'autre pas. Selon l'année d'émission et la version, vous pourriez détenir un article de collection très recherché. 2006. Il existe plusieurs versions du sous-noir pour cette année. Celle sans la lettre P et sans logo est extrêmement rare. C'était « Disparition de la scène noire, avantageux ou pas pour le consommateur ». Un texte de Lila Dussault paru le 18 juillet 2026 dans la presse.